Donc Malachi, nous sommes donc le 5 mars, déjà, la date avance, hein, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais ce qui est certain, c'est que il faut traiter ce sujet parce qu'il est important et parfois il est déformé, il est utilisé à des fins pas très nobles. Au chapitre 3, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites, alors c'est Dieu qui le dit, par la bouche de Malachi, en quoi t'avons-nous trompé ? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà, donc le peuple de Dieu était invité à donner la dîme, c'était une ordonnance bien précise et il faudrait savoir de quoi il s'agit. Alors, vous voyez bien que Dieu dit « vous me trompez » dans les dîmes et les offrandes. De quelle façon, chers amis, de quelle façon ? Eh bien, tout simplement, dans le peuple de Dieu, il y avait les prêtres et les lévites. Et les prêtres et les lévites n'avaient pas droit de posséder un territoire, des biens. Ils devaient être au service du temple en vue d'adresser des prières à Dieu pour le peuple et des prières d'intercession, d'action de grâce. Et ils étaient des adorateurs, des intercesseurs, des sacrificateurs. Tout cet ensemble de descendants d'Aaron, de Lévi, devait manger. S'ils s'occupaient des tâches matérielles pour pouvoir manger, de subvenir à leurs besoins, il était clair que le ministère de la prière, de l'adoration, de l'intercession serait mise en péril. Et donc, la place essentielle de Dieu sera mise en péril. Donc, chers amis, regardons bien à ce que dit la parole de Dieu. Au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi de la nourriture ? Pourquoi amener des céréales ? Pourquoi amener de la nourriture, 10% des récoltes, de tout le résultat du travail, et de le mettre dans des pièces spéciales du temple ? Eh bien, simplement parce qu'il fallait, durant toute l'année, que les prêtres et les lévites et leurs familles puissent manger. Donc, créer la famine et la pauvreté chez les prêtres, c'est un manque de respect envers Dieu. Ne pas honorer ceux qui priaient, qui adoraient, qui lisaient la Torah, qui l'enseignaient au peuple, c'était une offense à l'Éternel lui-même. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller un peu plus avant, c'est dans Deutéronome, au chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Attention, Certaines personnes comme Judas et d'autres ont pensé que c'était une supériorité politique, financière, sociale. La supériorité d'Israël, c'est la spiritualité, c'est la Torah, c'est la droiture et la fidélité dans la parole de Dieu, afin de porter le nom de Dieu dans les nations, parce que le nom de Dieu est saint, et c'est un peuple mis à part pour faire le témoignage de la sainteté de Dieu. C'est cela d'abord, cette supériorité. Et donc, si vous voulez bien, cette supériorité, ne la comprenons pas d'abord comme elle se passe en général dans l'instinct humain. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est formidable! C'est formidable. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Lorsque l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dans cette image de la tête et la tête, c'est la prophétie. N'oubliez jamais, c'est porter la parole de Dieu. Il y a d'autres textes pour l'expliquer, mais bon, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, le moment de le faire. Alors, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras pas, ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez, il y a une mission spéciale. Cette mission spéciale ne peut être portée que par la prière, l'adoration, la véritable bénédiction de Dieu. Cette mission spéciale d'Israël dans le monde ne peut être portée que par une véritable vie spirituelle authentique. Pour que cette vie spirituelle authentique puisse exister et être alimenté dans le peuple, dans les cœurs, dans les âmes, dans les chaumières, dans les petits comme dans les grands, dans les vieillards comme dans les jeunes gens, il faut que le peuple soit arrosé de la parole de Dieu et qu'il y ait des adorateurs, des sacrificateurs. Et qui rappellent, bien sûr, quand il le faut, à l'occasion, que tel ou tel péché est une offense à Dieu et que tel ou tel demande de pardon à Dieu, telle ou telle repentance s'impose. Chers amis, tout cela, c'est bien pour l'Ancien Testament. Mais ce qu'il y a aujourd'hui dans le peuple de Jésus, nous sommes aussi appelés à avoir parmi nous des responsables spirituels. Nous sommes appelés à subvenir à leurs besoins, à les aider, et surtout qu'ils fassent leur boulot. et surtout à honorer les enseignements, les paroles, lorsqu'ils sont fidèles à Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, dans les pays occidentaux, c'est que le nombre de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, qui font ce travail, est largement caduque. Et le peuple de Dieu n'a pas cherché à ce que ses enfants regardaient à Samuel, le peuple d'Israël. Le peuple était dépourvu de spiritualité. Une maman a prié pour avoir un enfant alors qu'elle était stérile, dans le livre de Samuel, chapitre 1 et 2, vous pouvez les lire, c'est magnifique. Anne a prié pour avoir un enfant pour le consacrer à Dieu. Et Samuel a appris à entendre Dieu, à écouter sa voix, et ne laisser tomber ni à droite ni à gauche les paroles de Dieu. Et Samuel était un grand prophète. Il a créé un renouveau dans ce peuple, complètement décadent. Aujourd'hui, il faut que l'on prie pour que des enfants dans nos familles chrétiennes se soient consacrés par la prière, par la demande des parents, l'adoration des parents, soient consacrés au service de Dieu et de la parole et de l'intercession. Le faisons-nous ou souhaitons-nous que nos enfants réussissent un diplôme dans le monde et un travail séculier, de l'argent, du confort, etc., et mettre Dieu au placard, ou en tout cas à la cinquième ou à la dixième place. C'est un choix fondamental. En tout cas, Anne, dans le livre de Samuel, ne l'a pas fait, et ça a été d'un grand bénéfice pour tout Israël. Chers amis, ce n'est pas automatique qu'il y ait des pasteurs, des anciens dans les églises, pleinement consacrés à Dieu. Ce n'est pas automatique. Il faut que les petits-enfants, même dans le ventre de leur maman, déjà soient l'objet d'intercession et de prière pour qu'il y ait de tels serviteurs et de telles servantes. Et quand un jeune homme ou une jeune fille se prépare au service de Dieu, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est pas fini de le former. Un jour, je travaille dans le champ, notre grand jardin, et un monsieur d'un certain âge passe et me voyait travailler et il me dit... Ça a été quelque chose d'incroyable parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais absorbé dans mon travail. Je priais, bien sûr, en travaillant, mais je ne m'attendais pas à cette parole que Dieu a mise dans sa bouche. Quand même, Jean, je vois que pour Dieu, il faut de longues années pour préparer et construire un serviteur de Dieu. Ça prend du temps, des dizaines d'années. Je me suis retourné, je l'ai regardé, je dis, oui, effectivement, c'est jamais fini. Effectivement, c'est jamais fini d'être préparé, d'être conduit par Dieu pour le servir. C'est jamais fini. C'est pas humain, c'est au-delà de nos forces et c'est un don de Dieu. Le ministère est un don de Dieu. Donc, quand il y a les dîmes dans le peuple d'Israël, c'est en fonction de tout cela. Parce que on arrive trop vite au sujet de la dîme, de manière superficielle. Et c'est pas ça. C'est pas du tout une question de superficialité. De simplement, je donne la dîme, je mets ça dans le panier, ou quoi, puis voilà. Non, non, ça va au-delà. Ça vient du cœur pour qu'il y ait de véritables enfants de Dieu qui se consacrent au service de Dieu. Je vais vous dire... Nos trois filles ont fait l'institut biblique. Nous n'avons pas dépensé beaucoup d'argent. Nous avons donné ce que nous pouvions. Mais d'autres églises, d'autres chrétiens ont donné pour que nos trois filles suivent 3 ans une formation spirituelle, sérieuse. Et maintenant, les fruits en sont là. Il y a une école. Il y a une école chrétienne. Et il y aura encore d'autres choses, sans doute, grâce à ce travail préparatoire dans le cœur de ceux qui ont donné pour nos trois filles. Mais d'autres jeunes dans l'Institut biblique d'Algrange, ou autre part, mais Algrange est très fidèle dans la parole de Dieu. Il veut être droit et juste. Ça, c'est extrêmement important. Elle ne cède à aucune mode, à aucune nouveauté qui passe, qui est souvent superficielle et déviante. Et l'Institut biblique prépare des hommes et des femmes à honorer Dieu et à honorer sa parole et à arroser le peuple de Dieu de la bonne parole. de manière juste et droite. C'est important. Quand moi, arrivé à 42 ans, j'ai été à l'institut, j'étais très heureux. Parce que j'ai vu que c'était là vraiment l'or, le trésor caché dans le champ, dans la parabole de Matthieu 13. Et comment j'ai pu faire l'institut? Je n'ai dépensé sur 3 ans que 250 euros que j'ai donné à cet institut. Comment se peut-il que sur 3 ans, un institut ne m'ait demandé que cela? Parce que d'autres ont pourvu, parce que d'autres ont consacré leur cœur et leur argent pour cela. Chers amis, nous sommes appelés à nous consacrer d'une manière qui est accessible à nos moyens, en donnant 15 ou 20 euros ou 30 euros, pour d'autres c'est 2000 euros, évidemment, pour que des gens se forment et des gens se donnent à Dieu et le servent fidèlement. Bien sûr, il ne faut pas les remplir d'argent et les séduire avec l'argent. L'argent ne peut pas détourner un serviteur, une servante de Dieu. L'argent est un ennemi de la vie spirituelle. Ça ne peut être qu'un moyen. Mais s'il y a trop d'argent, on se détourne de Dieu. Donc il est clair que c'est à l'institut de gérer les dons pour tel et tel étudiant, pour tous les étudiants, et c'est ou à l'église de gérer les dons qui sont donnés, ou la mission, par exemple moi la mission Amébi, qui gère, de manière à ce que les futurs serviteurs de Dieu et les serviteurs servantes de Dieu aient de quoi vivre et faire leur travail sérieusement sans être totalement tracassés et terrassés par les soucis matériels. Mais, ce n'est pas un surplus d'argent qui sort de partout, des poches et des oreilles, pour prendre l'avion tous les jours, pour vivre comme un roi, et prétendre qu'on a de grandes bénédictions, puis on a de l'argent. C'est faux. La vraie bénédiction est la vie spirituelle. Et le moyen, parfois nécessaire, ce sont les offrandes, les dîmes. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, dans le peuple de Dieu, dans le peuple hébreu, il est clair qu'il y avait un problème à certaines époques. On s'en fichait pas mal qu'il y ait des prêtres au temple, on s'en fichait pas mal qu'il y ait des prophètes, on s'en fichait, et puis tout dégringolait. Et comme par hasard, le peuple subissait des attaques de l'extérieur, subissait des sécheresses, des famines, et il était en train de crier au secours vers Dieu parce qu'il n'y a plus de bénédiction. Aujourd'hui, dans nos peuples dits civilisés, nous connaissons de grands détriments parce que nous offensons Dieu par notre manque de sérieux à son égard. Alors, Dieu nous met au défi de choisir la sainteté. Dieu nous met au défi d'aider des enfants, des jeunes gens, des jeunes femmes à servir Dieu et de subvenir à leur formation. Et plus tard, s'ils partent en mission, s'ils partent dans un ministère, non pas les enrichir, de les détourner par la séduction de l'argent, mais il nous met au défi de les soutenir de manière raisonnable et juste. C'est un engagement du cœur et c'est en même temps une bénédiction dans notre cœur. Donc la maison, on va voir maintenant, on va aller dans le premier livre des rois, au chapitre 7, verset 51. Premier livre des rois, chapitre 7, verset 51. Oui, il ne faut pas. J'avais des lampes là qui me brillent dans la figure. Non, il ne faut pas. Ça me faisait très mal. Alors, premier livre des rois, chapitre 7. C'est gentil, hein, merci. Premier livre des rois, chapitre 7. Où est-ce que j'en suis? Verset 51. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel, qu'il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés et les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Mes chers amis, mais comment David avait-il pu, lui, un ex-berger, avoir autant d'or et d'argent pour faire les ustensiles consacrés du temple? Et comment son fils a-t-il pu avoir l'argent pour avoir le soutien pour construire le temple? Simplement par la consécration du peuple. Simplement par la consécration du peuple. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10, verset 38. Le sacrificateur, Néhémie chapitre 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de moût, farine donc, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il va y avoir la dîme et puis la dîme de la dîme. Alors, nous allons voir pourquoi il y a cette dîme. Quelques versets avant. Verset 35. Néhémie 10, 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Donc, attention, au printemps, je sais que je vais avoir 10 tonnes de pommes ou de poires ou une tonne de vin, de raisins. J'apporte un peu de raisins, j'apporte des pommes et des poires déjà au temple. Je m'engage devant Dieu. Et si je vais avoir 2-3 tonnes de blé, supposons 3 tonnes, eh bien je m'engage, je amène déjà une gerbe de blé. C'est un signe de mon engagement solennel devant Dieu, devant la communauté des croyants et devant les prêtres. Et quand la récolte est faite, j'apporte le 10% de tout cela. Donc nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui font service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. On ne va pas manger les premiers-nés, hein, les enfants. Et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du moût et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Donc, des 10% de toute la prospérité de ce peuple, une partie, une dixième, est donnée pour Dieu, mais les 9 dixièmes sont faits pour nourrir les prêtres et les Lévites et leurs familles. Et donc, c'était la vitalité spirituelle du peuple qui était en jeu avec la question des offrandes et de la dîme. Voilà, veuillez me pardonner, la Wi-Fi s'est interrompue, c'était pénible à remettre en route. J'ai trouvé qu'une solution s'appelait Noémie. Et pendant ce temps-là, de prier notre Dieu de rétablir la bonne connexion. Alors, je voudrais continuer le sujet de la dîme dans Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13, verset 12. Je vais commencer au verset 10. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Vous voyez ? Et c'était la misère. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Donc là, on est en 435 avant Jésus. Et c'est assez dur à admettre, mais pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Donc je relis ce verset puisque vous êtes revenu, la wifi a été coupée, excusez-moi. Néhémie chapitre 13 verset 10, nous sommes en environ 445 avant Jésus. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service, donc spirituel, dans le temple, s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Ben oui, ils mouraient de faim. Et ils repartaient à droite et gauche pour pouvoir subsister avec leur famille. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Néhémie est donc le gouverneur. Je me trompe peut-être sur la date, hein. Je vais vous dire, le retour est en 535, c'est plutôt vers 530, 520 avant Jésus. Alors tout Juda apporta dans les magasins, c'est-à-dire dans les pièces spéciales du temple, prévues à cet effet, la dîme du blé, du moût, donc de la farine, et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok le scribe, et à Pédéja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Fidèles, c'est-à-dire la foi en Dieu, la crainte de Dieu, la droiture et la loyauté. Ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères, donc de donner à manger à toutes les familles des Lévites et des prêtres, de manière juste. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, n'oublie pas mes actes de piété, donc de foi, à l'égard de la maison de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. Alors, ce n'est pas toujours évident. Je vais vous montrer un exemple. À cette époque, je vis en Juda, donc autour de Jérusalem, des hommes foulés oppressoirs pendant le sabbat. Foulés oppressoirs, c'est-à-dire écraser les huiles d'olive, en retirer de l'huile et le faire le jour du sabbat, donc du vendredi 18h au samedi 18h, le jour qui est consacré à Dieu. Et puis ensuite, ils étaient en train de charger sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Donc ils faisaient du commerce le jour de Dieu. Ben, maintenant, ce n'est plus un problème, hein. Tout le monde s'en est moqué de Dieu, il n'y a plus de jour de Dieu. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem, donc des Phéniciens, des Libanais, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient au fils de Juda le jour de sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Alors, je voudrais vous dire, quand on ne fait pas honneur à Dieu, quand on ne fait pas honneur à Dieu, on fait honneur au commerce et à tous les trafics. Et pour finir, on s'y perd. On s'enfonce là-dedans, tête baissée. Et finalement, Dieu n'existe plus, sauf le Dieu de l'argent, du commerce. N'est-ce pas cela qui se passe dans notre société post-chrétienne? Israël a connu ces problèmes-là. Eh bien, c'est pas neuf sous le soleil. Chaque fois qu'on met la vie spirituelle en danger, on s'enfonce dans l'esclavage économique. Et sachez bien que dans la vie économique, il y en a toujours pour rouler les autres. Il y en aura toujours au-dessus pour toujours damer le pion aux autres et marcher sur leur tête. Et c'est donc une spirale qui finit par un esclavage économique. La vie spirituelle est un frein à l'esclavage économique. La vie avec Dieu, l'adoration et la prière, et laisser une place aux hommes et aux femmes et aux hommes servantes de Dieu pour honorer Dieu et pour enseigner le peuple, laisser une place à ceux-là, c'est rétablir l'équilibre qui est évidemment nécessaire dans l'homme. L'homme suit ses passions et ses convoitises. Et s'il n'y a pas un enseignement où on connaît le bien et le mal, où il y a des limites à nos passions, à nos convoitises économiques, eh bien, pour finir, on devient esclave de nos convoitises, de nos passions matérialistes, consuméristes. La vie spirituelle met une limite, elle met une raison saine. Et c'est pour ça que je voudrais... Le sujet de la dîme est un sujet qui aborde le fond des choses. Prenez le psaume 111. Le psaume 111. J'ai vu une forte influence au fur et à mesure du temps. J'étais enfant, je suis né après la guerre en 1948. J'ai vu une forte influence de l'argent. On a abandonné le jour du dimanche parce que les patrons donnaient un salaire double pour travailler le samedi et le dimanche. Pourquoi ? Pour faire tourner les usines, faire de la production, faire du bénéfice. Et beaucoup de gens ont délaissé la vie spirituelle, la structure familiale où il y avait une place pour Dieu. Et pour finir, à force de faire cela, on a quand même fermé les usines. Pourquoi ? Parce que les actionnaires de toutes ces usines ont trouvé même très intéressant non plus de payer les samedis et dimanches, ça leur revenait très cher, mais de les établir au Brésil, et de les établir en Chine, etc. L'esprit de spéculation a continué. Alors, qu'ont fait les personnes qui avaient pris goût à l'argent, qui avaient pris goût au confort, et qui avaient mis Dieu de côté ? Eh bien, ils ont souhaité trouver de l'argent quelque part. Et le grand drame pour le grand duché de Luxembourg, qui est à côté de chez nous, c'est qu'en perdant sa sidérurgie, en perdant ses revenus industriels, il lui fallait trouver un autre moyen de s'enrichir. Et donc, il a attiré les multinationales, toutes les grandes banques, en les délestant des impôts, en leur donnant des faveurs fiscales. Et cela a créé du boulot. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans toutes ces banques pour un argent malhonnête. Et évidemment, toute cette vie a gagné les âmes, cette vie d'argent. Et combien de fois je rencontre des gens qui sont écrasés, ils sont devenus esclaves du matérialisme et de leur engagement, de leurs emprunts, de leur vie qui n'est plus équilibré. Est-ce que, en allant voir des psychologues, des psychiatres, ou des gourous, ou des hypnoses, des gens qui font de l'hypnose, ou du fitness, ou des lieux de sérénité spéciaux, en tout genre, est-ce qu'on va retrouver l'équilibre ? Je ne pense pas. Revenons à Dieu, laissons-lui une grande place essentielle dans nos cœurs et dans nos vies. Et réapprenons à nos enfants la simplicité est la grande richesse des hommes. L'humilité est le bon chemin pour se garder de toutes les convoitises. Et je prends le psaume 111. Naturellement, je prends un discours qui n'est pas très agréable. Je ne suis pas payé, façon de parler. Je ne reçois pas d'argent des églises de France. Je ne reçois pas d'argent d'un certain nombre de chrétiens pour caresser tout le monde dans le sens du poil. Je préfère dire la vérité et être au service de la vérité, car c'est toujours la vérité qui fera du bien aux hommes, pas le mensonge. Alors, dans le psaume 111, je prends le verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Regardez dans ce verset-là. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas l'angoisse, la culpabilisation, la recherche des péchés, la légalité, ce n'est pas ça. C'est le respect de l'Éternel. C'est la considération. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous considère, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous attache de la valeur, quelle que soit la grosseur de votre voiture, de votre portefeuille, il accorde de la considération à votre personne. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous touche? Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. La considération à l'égard de Dieu est précieuse aux yeux de Dieu et elle nous donne une relation plus paisible avec Dieu et pas une relation d'angoisse et de culpabilité. Donc, la crainte de l'Éternel, la considération de l'Éternel et le respect de sa personne, de sa grandeur, de sa majesté, de sa sainteté et de ses paroles. La crainte éternelle est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, dans le livre des Proverbes, c'est l'art d'obéir aux enseignements de Dieu, à la parole de Dieu. C'est la mise en pratique des ordonnances divines. Mais c'est une application volontaire et saine. C'est une application consentie, réfléchie. C'est pas, on n'obéit pas par bêtise ou par peur sous la domination. La sagesse est une œuvre de Dieu dans notre cœur pour savoir ce qui est bon, ce qui est vrai et juste, et pour mettre de côté ce qui est tordu, malsain et destructeur, malfaisant. Alors tous ceux qui l'observent, cette sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Eh bien, chers amis, on remplirait 10 fois moins, 100 fois moins les hôpitaux psychiatriques et les bureaux des consultants si nous avions une relation saine avec notre Créateur et si nous avions une vie saine, une vie intérieure saine, nécessite aussi une sagesse à l'égard des biens, à l'égard de la possession et de l'usage des biens, et elle nécessite de mettre Dieu au centre de notre vie. Je n'ai pas dit le pape ni les évêques. Je n'ai pas prêché pour la bigoterie. J'ai dit la personne de Dieu, elle-même. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Pour retourner à un peuple qui ait un équilibre psychique et mental, il faut un enseignement juste de la parole de Dieu, qui n'est pas culpabilisant, mais qui amène les personnes à réfléchir, à devenir responsable d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait? On a l'art de créer des irresponsables. Et puis tout le monde se casse la figure et dans l'angoisse. Il y a un petit Covid, un petit microbe, qui n'a fait que toucher 0,037% de la population européenne. Un petit microbe nous fait créer une terreur. Une terreur. Alors, et créer des dégâts psychiques importants. Nous sommes à l'heure de la peur, puisque nous n'avons plus une relation vivante avec notre Créateur. Tous ceux qui l'observent d'une raison saine, et alors, regardez à la fin de ce verset, sa gloire subsiste à jamais. Oui, Dieu est dans sa gloire. Il est heureux quand il voit des gens heureux. Il est heureux quand il voit des gens qui ont les deux pieds sur terre et la tête au ciel. Il est heureux quand il voit des gens qui n'adorent pas que l'argent et le confort et le matérialisme. Il est heureux quand il voit des enfants qui lui disent merci. Dieu est glorifié par notre vie saine. Il n'en demande pas plus. Dieu est bon et miséricordieux et juste, rempli d'amour pour nous. Donc la question de la dîme éveille la question de la vie spirituelle. Donc quand dans certaines églises, des prédicateurs prêchent pour la dîme, et que les gens se débarrassent d'une culpabilité ou se sentent obligés pour être sauvés de donner la dîme, nous sommes sur une mauvaise route. C'est pas là qu'il faut aller. Ça va tourner mal pour soi-même et pour les autres. La dîme a un autre sens, et j'espère que je vous l'ai précisé. La dîme n'est plus applicable dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'autre chose. Nous allons aller voir dans Éphésiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Veuillez m'excuser à cause de l'interruption de la Wi-Fi, j'ai perdu un peu de temps. Vous pouvez retourner pendant un mois sur l'enseignement, mais il faut que j'avance, je fasse un tour aujourd'hui. Éphésiens 2, versets 14 et 15. Christ, Jésus, est notre paix. Lui qui des deux mondes n'en a fait qu'un. Le monde des hommes étrangers à Dieu, le monde des hommes pris de convoitise, pris de passion, et le monde divin, le monde de la sainteté et du bonheur, du repos de l'âme. Eh bien, Christ, des deux mondes, n'en a fait qu'un. C'est-à-dire, il est venu pour réconcilier l'homme et Dieu, et que l'homme soit au bénéfice des grâces de Dieu, de tous les dons de Dieu, des dons spirituels, moraux, psychiques, la raison saine notamment, et bien d'autres. Il est notre paix. Verset 14. Il est notre paix. Et c'est ce verset-là que je voulais vous dire. C'est l'essentiel. On connaît quelqu'un qui est vraiment croyant et qui a vraiment une relation sincère et profonde avec Dieu à sa qualification, la paix. Il est dans la paix, il apporte la paix. Il fait du bien aux autres, même si parfois ils s'en rend pas compte. Mais il est dans la paix, il apporte la paix. Aujourd'hui, rencontrez-vous des hommes et des femmes de paix? C'est devenu rare. Allons dans Romains, chapitre 10. Romains, l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 4. J'ai le moyen de ne pas faire trop de bruit, ce serait bien. 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, c'est terminé avec les règlements religieux. C'est terminé avec le légalisme et la culpabilisation. Pour la justification de ceux qui croient. Si nous croyons dans Jésus, dans son sacrifice à la croix qui a payé pour nous, les transgressions humaines, elles sont nombreuses sur cette terre, hein, et dans notre cœur. Eh bien, si nous croyons que Jésus a porté notre fardeau, notre dette, que nous l'acceptons, nous sommes justifiés, c'est-à-dire pardonnés. Et il n'est plus question de racheter, de se faire pardonner, si nous sommes pardonnés. Il ne s'agit plus d'être obsédé par un pardon et d'aller au confessionnal. Aller à genoux à Fatima, se traîner sur 2-3 kilomètres, être en sang, ou aller faire des offrandes dans les troncs, etc., ou donner la dîme. C'est Christ qui nous justifie, et la loi est finie. Et je dis cela parce que c'est très important. On ne peut pas, si on donne quelque chose, parce qu'on est croyant, le faire parce qu'on est dans la loi et dans l'obligation ou la crainte. Ça doit venir d'un cœur bien disposé, clairement établi dans une relation positive avec Dieu. Autrement, on entretient une névrose spirituelle et on contamine les autres avec sa propre névrose spirituelle. Et vous savez, les religions ont bien compris cela, elles ont usé de ça. Mais Jésus n'est pas le maître de la religion. Il est la source de la grâce. Il est le maître de la grâce. Et la grâce est gratuite en Jésus-Christ. Sa vie, sa présence, sa personne, son pardon, son amour, le Saint-Esprit, tout est gratuit en Christ. Il suffit simplement de faire confiance à lui. de l'accepter dans la foi. Prenons Hébreux 8, 13. Hébreux 8, 13. L'épître aux Hébreux est écrite à la fin du 1er siècle, sans doute par Apollos, un juif d'Alexandrie, très cultivé, qui connaissait la rhétorique grecque jusqu'au bout des doigts. J'ai apprécié l'étude à l'Institut biblique de cet épître, c'est un chef-d'œuvre de littérature grecque. Hébreux 8, 13. En disant une alliance nouvelle, Dieu, en amenant Jésus sur la terre, a fait une alliance nouvelle, un nouveau contrat de relation, de confiance, pas un contrat d'ordonnance et de culpabilisation, de culpabilité et de crainte. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Nous devons laisser disparaître les traces de nos vies, de tout ce que nous avons reçu des religions, de n'importe laquelle, pour être avec la personne vivante de Christ, de Jésus. Et là, nous trouvons une relation de paix. Combien de fois des personnes m'ont dit « Ah, si on pouvait avoir des enfants comme les vôtres, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont joyeux, qu'est-ce qu'ils sont serviables ?» Où ont-ils été trouvés ça? En voyant et en appréciant les enfants, ils auraient souhaité ça pour leurs enfants. Mais ils ne les consacraient pas, ils ne priaient pas pour que leurs enfants connaissent Dieu. Ils ne mettaient pas la priorité à ce qu'ils connaissent Jésus et à son enseignement. Ils ne donnaient pas la priorité à ce qu'ils aiment le Seigneur Jésus dans sa richesse. Or Paul a dit, Jésus-Christ est venu nous enrichir de sa pauvreté. C'est une sacrée leçon pour aujourd'hui. Parce que nous apportons de la considération à tous ceux qui ont de l'argent, des belles maisons, etc. Ou paraître. Maman appelle. Maman y appelle. Alors je vais plus loin. Je vais plus loin. Nous allons aller dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 9. C'est incroyable, hein? Deuxième aux Corinthiens, chapitre 9. C'est une épître qui est écrite vers les années 55, donc 25 ans après la mort et la résurrection de Jésus, par Paul, qui était à Éphèse, qui était malade. Alors, deuxième aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 12. 6. Au verset 4, je vais commencer au verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire, donc sans réglementation spéciale? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, donc une femme chrétienne, qui soit notre épouse, comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Pierre, Cephas? Donc ce verset nous montre bien que les apôtres vivaient avec leur épouse et leurs enfants. C'est très important. Le célibat n'a pas été proposé par Jésus. Il est venu dans l'Église catholique vers le 11e, 12e siècle. Alors, plus loin, il est mis ceci. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Donc il y avait toujours un bœuf qui tournait alentour d'un pilier, il y avait une barre en bois qui était fixée sur son cou, et il piétinait la paille pour que le grain sorte, et puis après on arrêtait le bœuf bien sûr, pour ramasser le blé et trier la paille, mais on ne pouvait pas empêcher le bœuf de manger de la paille et un peu de blé. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Il faudra qu'il puisse manger. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, que celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons quelques biens temporels? Donc vous voyez bien que Paul dit bien que quand des personnes sont consacrées réellement à la parole de Dieu, il faut tout de même prendre au sérieux leurs besoins, sans plus, sans les enrichir, parce que ça serait plus grave, on les détournerait alors du vrai sens de leur mission. Mais vous voyez à travers cela qu'il y a une attention à ceux qui servent Dieu. Et vous pourriez lire tout le chapitre 9 de la première aux Corinthiens. Bon, je vais dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 9. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Donc, je vais commencer au verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, à Corinthe, et de s'occuper de votre libéralité déjà promise. » L'Église avait promis de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui mouraient de faim, qui avaient faim, qui étaient très éprouvés. « De s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, donc un acte de générosité, un acte d'amour, et non un acte d'avarice. » Donc vous voyez, Paul insiste bien qu'on ne donne pas l'argent pour spéculer sur Dieu. Je fais ça parce que je veux avoir une place supérieure auprès de Dieu. Je fais ça pour être plus valable aux yeux de Dieu. Je fais ça pour, tout compte fait, acheter mon strapontin au ciel, et qui soit en or. C'est pas ça. La générosité vient d'un cœur sincère, simple et dépourvu d'intérêt. Et c'est la libéralité qui compte dans les vrais chrétiens. Moi, je dois dire, j'ai quitté mon travail il y a plus de 30 ans. Je gagnais 3000 euros par mois et j'étais tout content de mon boulot. J'aurais continué, je gagnais plus maintenant, beaucoup plus, mais ce qu'il y a, le Seigneur m'a appelé à le servir parce que j'ai été une fois au Luxembourg, après journée, après les chantiers, je suis parti à ma voiture faire 3 devis dans des familles au Luxembourg, de très belles maisons, des beaux couples, avec des enfants, c'était magnifique. Partout où je suis passé. Et chaque fois que je sortais, j'étais dans ma voiture, j'avais mes tablettes, je connaissais tous les prix par cœur, j'avais même pas besoin d'une machine. Je faisais le devis, puis pour le déposer au bureau, à l'ingénieur et à la secrétaire, quand je rentrais. Qui, au matin, eux, travaillaient, regardaient, vérifiaient et expédiaient tout de suite. Quand j'arrivais dans la journée, je signais, ou eux, l'ingénieur qui était là signait, et ça partait. J'étais sûr de mon coup dans les remises de prix, en général. C'était une longue expérience et très vivante, très passionnante pour moi. Je suis sorti de la première maison et j'avais vu que le couple ne fonctionnait pas très bien, qu'il était dans l'inquiétude, dans l'angoisse, je vais dire dans un mauvais fonctionnement entre eux. Et le Seigneur me reprend dans ma conscience et me dit « Jean, tu as vu ces personnes avec leurs souffrances, tu as vu la belle maison, mais regarde leur cœur, tu l'as vu ?» Et dans ma conscience, cette voix intérieure qui me reprenait, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit pour eux. Tu vas les laisser dans cette misère, tu n'y reviendras pas, tu n'auras pas le travail. Je vais à la deuxième maison, plus loin, à plusieurs kilomètres au Luxembourg, et je sors, le contact avait été agréable, je savais exactement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient, etc. Je suis dans l'auto, je fais de nouveau mes appréciations, mon devis et tout ça, estimation de prix, sur lesquelles je ne revenais pas. C'était clairement établi, je ne voulais pas tricher, il n'y avait pas de supplément. De nouveau, cette injonction spirituelle venait dans mon cœur. Jean, tu as vu ça? Tu n'as pas pris soin des âmes qui sont là. Tu n'as pas pris soin de leur future relation avec moi. Tu ne les reverras pas, tu n'auras pas le travail. Alors, dans mon cœur, le Seigneur me dit, faut-il que tu sois 6 mois à l'hôpital, que tu sois malade, pour que tu comprennes que je veux t'arrêter, laisse l'entreprise dans les mains d'autres, elle continuera sans toi, ne te tracasse pas, ils feront toujours leur travail, mais toi tu dois me servir. Troisième maison, je suis dans l'auto, la même chose. Évidemment, dans ma conscience, c'est un peu comme un portable, on reçoit un message. C'est un message bon ou un message mauvais. Mauvais, on l'efface, on ne veut pas. Un message interpellant, on se pose des questions. Je suis rentré, j'ai posé les devis sur le bureau et je suis allé voir mon épouse qui travaillait dans le jardin. En général, quand elle est dans le jardin, c'est qu'elle aime bien d'être seule et de prier, de chanter, etc., et d'être relaxe. Et cette chère Marie-Hélène, eh bien, chers amis, me dit « J'ai quelque chose à te dire. » Elle me raconte la même chose que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur. Exactement les mêmes paroles. Elle me dit « Jean, il faut qu'on rentre, qu'on prie. » Et puis on a prié. J'ai fait ma lettre de démission pour servir le Seigneur. J'ai dû abandonner ma passion adultère pour l'entreprise, pour choisir Dieu. Et j'ai dû choisir. Ça a été très difficile. C'est une reconversion totale de l'esprit, de la mentalité, des réflexes. On est habitué à mériter son salaire, à le gagner, à se prouver qu'on est quelqu'un, etc. Et voilà. Tout d'un coup, c'est le vide et il faut suivre Dieu. Il faut suivre la volonté de Dieu. Eh bien, chers amis, il a fallu des personnes pour qu'elles me l'expliquent, la volonté de Dieu. Il m'a fallu du temps pour la comprendre. Eh bien, chacun de nous qui ose dire « je crois en Dieu » doit bien se rendre compte que Dieu est tout-puissant et grand et qu'il demande qu'on prenne au sérieux. On le prend au sérieux, on doit entendre ce que le Seigneur veut. Comme Samuel, « parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous ne pouvons pas être chrétiens sans dire cela à Jésus. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Et, quel qu'en soit le prix, il faut entendre. Il faut oser accepter ce que Jésus demande. Il faut oser tourner le cap, changer de direction s'il le faut, complètement. Et c'est cela. L'avarice, c'est une vie centrée sur elle-même. C'est une vie d'apparence généreuse. On peut être chrétien, on peut être avare. On est sincèrement attaché à ce qu'on est, à ses biens, et on croit qu'on fait plaisir en donnant de l'argent, et on croit faire plaisir à Dieu. Mais non! Parce que Dieu veut autre chose. Il veut le don de mon cœur, de mon être. Après, oui, il me montrera ce que je dois faire de mes biens. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas que l'argent, son cœur, son âme, son engagement. » Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice, donc obéissance. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, par toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ce qui compte, chers amis, c'est que nous soyons dans l'action de grâce. Lorsqu'on est généreux pour Dieu, on est dans l'action de grâce. On sait très bien que Dieu redonnera autrement ce qu'on a donné. Et regardez, je continue le verset. car le secours de cette assistance aux chrétiens de Jérusalem non seulement pourvoit aux besoins des saints, des chrétiens, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Action de grâce chez les chrétiens de Jérusalem, action de grâce chez ceux qui ont donné. Il y a une grande liberté chez le vrai chrétien par rapport à ses biens. Il y a une grande simplicité de cœur et il y a toujours une main de Dieu pour remplir la main chaque fois qu'on l'a tout vidé, on a donné. Et ça, je vais vous dire, c'est une longue expérience qu'il m'a fallu apprendre. Je vous la souhaite. Tous les textes sur la dîme ne sont pas finis. Je vous invite à réfléchir. Il faut choisir la volonté de Dieu. Dieu seul suffit. Aimez la générosité. Pratiquez-la. Aimez la sincérité et la spontanéité du cœur animé par l'Évangile. Exprimez par vos dons, par vos prières, par vos louanges, l'œuvre gratuite de Dieu déposée dans votre cœur. Car il n'y a pas que l'affaire de l'argent. La vraie dîme, c'est l'adoration de Dieu. La vraie dîme de mon cœur, tout donné à Dieu. L'argent n'est qu'un des aspects de l'œuvre de Dieu en moi, quand je suis enfant de Dieu. Voilà, j'ai résumé, je n'ai pas pu faire tous les textes bibliques que j'aurais voulu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est vendredi. Et priez pour notre frère Jackie Pierre, qui a été opéré d'une hernie. Il souffre énormément à l'hôpital, à Verdun. Il avait beaucoup tardé à se faire opérer et il souffre énormément. Priez pour lui. Et n'oubliez pas, priez, ça va peut-être durer un mois, là. C'est sa souffrance. Vous pouvez demander à Dieu d'éliminer cette souffrance qui l'accable. C'est très important, mes amis. Voilà encore une dîme de plus. Je vous invite à écouter le culte à 10h15, dimanche prochain. Mais si vous êtes dans votre église, soyez avec votre église. Autrement, à lundi à 18h. Que Jésus vous bénisse. Amen.